Radio Okapi.
Le journal Blaise Jordan Shindani Kambala.
Bonjour madame, bonjour messieurs et bienvenue à cette édition du journal de midi dont voici les titres. Kinshasa entre ville morte et activité normale, ambiance contrastée après les appels opposés de l'opposition et de la majorité. Les détails dans un instant. Naufrage sur la rivière Aruwimi dans le territoire de Banalia à 128 km au nord de Kisangani. Plus de 60 disparus, la colère monte dans la Tchopo face à l'insécurité fluviale. Nouvelle attaque ADF à Bapakombe, Bakondo. Une vingtaine de civils tués. Arsène Mouaka, député national élu de Beni Territoire au Nord Kivu, invité des dialogues entre Congolais d'hier, dénonce l'absence des leçons tirées des précédentes opérations. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs. La capitale congolaise connaît une journée particulière ce mercredi 3 juin, marquée par l'appel de l'opposition à observer une journée ville morte pour protester contre toute modification de la Constitution. En parallèle, les partis de la majorité présidentielle et les autorités invitent la population à poursuivre normalement leurs activités. Dans les rues, l'ambiance apparaît contrastée. Certaines artères sont presque désertes, tandis que quelques habitants ont tout de même choisi de sortir. D'autres préfèrent rester chez eux pour suivre l'évolution de la situation. Rapport de John Chibwabwa.
La ville de Kinshasa n'est ni totalement morte ni vraiment vivante. Des commerces fermés, un trafic moins dense qu'à l'accoutumée, c'est le visage qu'offre la capitale ce matin. Un agent de l'État qui a requis l'anonymat affirme être présent à son poste sans contrainte particulière.
Étant agent public de l'État, je suis apolitique. Je ne suis pas là pour répondre aux appels de l'opposition, mais je dois répondre aux obligations de l'État parce que je suis un agent de l'État. Donc voilà la raison pour laquelle je me dirige dans mon bureau. C'est à eux qui sont politiques de respecter les mots d'ordre. Ceux qui sont de l'opposition, ils vont respecter leurs mots d'ordre. Mais ceux qui sont dans les institutions, ils vont travailler pour répondre aux devoirs et obligations de l'État.
La prudence reste toutefois de mise pour certains parents. Marc Ngombo a choisi de garder ses enfants à la maison par mesure de sécurité.
Mais je devais accompagner mon fils cadet à l'église et faire à l'école. Mais je n'ai pas voulu le faire compte tenu de la situation qui ne rassure pas. Donc pour raison de sécurité, j'ai gardé mon enfant à la maison. Son aîné va partir l'après-midi. Je crois qu'il n'ira pas non plus parce que je ne suis pas sûr que son professeur ira à l'école.
Entre attente, inquiétude et prudence, l'opinion des maires partagées face à l'appel à la ville morte.
Comment les appels de l'opposition à observer une ville morte et ceux des autorités ainsi que des partis de la majorité invitant la population à vaquer librement à leurs occupations sont-ils vécus en province? Faisons les points à travers quelques villes du pays. À Kikwit, dans la province du Kwilu, les activités se déroulent normalement selon plusieurs habitants que nous avons joints. Les écoles ont ouvert et de nombreux parents affirment y avoir envoyé leurs enfants. Dans la province voisine du Kwango, à Kenge précisément, la ville semblait coupée en deux. Une partie de la population disait suivre l'appel de l'opposition, tandis que l'autre vaquait à ses occupations. En Bandaka, dans la province de l'Équateur, la circulation était timide tôt ce matin, selon nos sources, avant de commencer à se normaliser. Plus de détails avec vous, Alain Irung.
L'appel de l'opposition à observer une ville morte n'est pas suivi à Kananga au Kasaï central. Les activités se déroulent normalement. Magasins, écoles, universités et services publics sont ouverts. La police est déployée en nombre dans plusieurs points sensibles de la ville, notamment à Limo Kasaï, au rond-point Carrefour, à Notre-Dame et au croisement des avenues Lulua et Kasavubu. Un policier rencontré affirme que leur mission est d'empêcher les troubles et de sécuriser les personnes et leurs biens. À Kindu, dans le Maniema, la situation est également normale, tout comme à Bunia, en Ituri, où la tension reste focalisée sur la riposte contre l'épidémie à virus Ebola. À Lubumbashi, nos sources indiquent que dans la commune de Kenya et au centre-ville, certains magasins n'avaient pas ouvert tôt le matin et la circulation était timide. La situation tend toutefois à se normaliser au fil des heures. À Matadi, dans le Congo central, les activités se déroulent normalement. Au rond-point Bouima, comme au marché Mvoidou, magasins et boutiques sont ouverts et la circulation est dense. Les agents de la circulation routière sont en poste et quelques éléments de la police sont déployés dans les carrefours et autres points sensibles de la ville.
Autre chose à présent, la réhabilitation du président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Papi Mantezolo, par la Cour constitutionnelle continue de diviser les 40 députés de cette province. Appelés en consultation à Kinshasa par le vice-premier ministre de l'Intérieur depuis le 16 mai, ces élus provinciaux n'arrivent toujours pas à trouver un terrain d'entente. Deux camps se sont formés autour de la question. Lors d'une réunion de concertation, 21 députés ont réaffirmé leur soutien à l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 7 mai, tandis que 19 autres ont exprimé une position différente. Le rapport de cette concertation a été déposé hier mardi auprès du vice-premier ministre de l'Intérieur. Les députés provinciaux Jean Komboko Ndombasi apportent des précisions sur la nature de cette crise qui paralyse le fonctionnement de l'Assemblée provinciale du Congo central. Suivons-le au micro d'Askin Zigbiatayoro.
L'honorable Mantezolo réhabilité comme président, l'honorable Nsalami réhabilité comme vice-président, les trois autres postes doivent faire l'objet d'un vote. Ça, c'est le premier groupe que nous sommes. Le second groupe estime que c'est seulement l'honorable Mantezolo qu'on a réhabilité. Les quatre autres membres composant l'ancien bureau de l'honorable Nsoami doivent continuer. Devant cette divergence, il faut aller à la cour, chercher une autre interprétation. Le VPM nous a proposé de nous mettre ensemble, de chercher un consensus. Le président Mantezolo convoque une réunion de concertation. Les collègues en face ne se sont pas présentés. Ici à Kinshasa, nous sommes tous à Kinshasa, les 40 députés. Il y a un groupe avec 21 députés, il y a un groupe avec 19 députés. L'unique solution, c'est le respect de l'arrêt de la Cour. S'il y a un groupe qui n'est pas satisfait, rentrez à la Cour. Il faut saisir la Cour pour une interprétation. Pourquoi on doit traîner ici? Notre province doit rester dans la paix et dans la stabilité.
Province de la Tchopo, plus de 60 disparus, c'est le bilan provisoire du chavirement d'une embarcation survenue hier mardi sur la rivière Aruwimi dans le territoire de Banalia à 128 km au nord de Kisangani. Selon des témoins, l'embarcation surchargée transportait de nombreux passagers ainsi que des marchandises. Ce nouveau drame de la navigation provoque une vive colère au sein de la population et ravive les appels à des mesures urgentes pour renforcer la sécurité sur les voies fluviales. Le point avec Jacques Moukonkolé.
C'était mardi noir pour Banalia. Selon les témoignages, une embarcation surchargée a sombré dans les eaux de la Ruwimi. Le bilan est lourd. Plus de 60 disparus et seulement 6 rescapés. D'énormes pertes matérielles sont également enregistrées. Réunis en urgence, le comité local de sécurité pointe une série de défaillances critiques. La surcharge manifeste de l'embarcation, l'absence de contrôle officiel avant le départ et l'irresponsabilité du conducteur qui devra répondre de ses actes devant la justice. Mais au-delà de cette faute individuelle, c'est tout un système qui est mis en cause. Face à la panne prolongée du bac officiel et à la non-mise en service du nouveau navire, les habitants n'ont d'autre choix que d'emprunter les embarcations de fortune. Une situation devenue insupportable. Aujourd'hui, la population du Banalia ne se contente plus de plaider ses disparus. Elle exige des réponses. Les habitants pressent les autorités provinciales de déployer sans délai une solution pérenne de traversée sécurisée. Ils réclament également un renforcement immédiat des mesures de contrôle sur toutes les pirogues motorisées pour éviter qu'une telle tragédie ne se reproduise. Alors que les recherches se poursuivent dans une rivière particulièrement gonflée par les eaux, le traumatisme reste immense dans tout le territoire. Jacques Mkonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Au moins 16 civils tués, 5 personnes portées disparues et plusieurs maisons et motos incendiées. C'est le bilan encore provisoire d'une nouvelle attaque attribuée aux rebelles des ADF la nuit dernière dans 3 quartiers de la localité de Mbaou. C'est le chef-lieu du secteur de Beni Mbaou, situé à 25 km au nord-est de la ville de Beni. Nous sommes au nord Kivu. Les assaillants ont opéré successivement à Kitoho, Matete et Kingeshe avant de se replier dans la forêt. La société civile du territoire de Beni condamne fermement cette énième attaque et appelle les forces armées à mieux exploiter les alertes sécuritaires fournies par la population. Omar Kalicia, son président dans le territoire de Beni, est au micro de Marc Marofimbo.
Depuis hier, 10 heures, nous avons été alertés et chacun à son niveau a transmis le message selon lequel l'ennemi est en train de venir vers l'entité Mbao. Et nous, on passerait que l'armée, aussitôt informée, devrait mettre des garde-boue pour que l'ennemi ne puisse pas toutefois pénétrer dans l'entité Mbao. Alors qu'on disait l'ennemi quitte l'est, côté à Matiba, Ngite, Mukida, pour entrer dans Mbao. Ce que nous pouvons recommander aux autorités sécuritaires, nous apprenons comme tout le monde qu'il y a une montée en puissance, nous avons des drones. Cette fois-ci, ce n'est plus le parc national de Virunga, ce sont des champs. On supposerait que les drones s'y déployaient dans l'entité où on est en train de parler par rapport aux rumeurs et aux mouvements de l'ennemi. C'est facile de le repérer. Si réellement ces drones sont les drones congolais, nous devons faire tout moyen d'anticiper les mouvements de l'ennemi parce qu'on ne saura pas protéger chaque population avec un militaire. Mais nous devons partir vers l'ennemi et le traquer.
Nord Kivu toujours, la situation humanitaire continue de se détériorer dans les territoires de Masisi. En cause, l'intensification des affrontements entre l'FC-M23 et les groupes Wazalendo au cours des deux dernières semaines. Selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, OCHA, la zone de santé de Masisi est particulièrement affectée avec une situation critique dans l'aire de santé de Niabiondo. Cette insécurité persistante survient alors que les acteurs humanitaires font déjà face à d'importants défis logistiques, notamment la dégradation avancée des routes qui complique l'accès aux populations en détresse. Bernadette Nyangi pour les détails.
Les derniers incidents sécuritaires ont porté à plus de 270 000 le nombre de personnes déplacées vers Masisi Centre. Parallèlement, plus de 30 000 personnes vulnérables ont été recensées dans la seule aire de santé de Niabiondo. Malgré ces contraintes, OCHA lance un appel à un sursaut de solidarité pour venir en aide aux populations affectées. Djuma Baudouin, un cadre de OCHA, explique.
L'aire de santé de Niabiondo, épicentre de tension également, est considérée comme étant une zone de concentration des personnes déplacées. Nous sommes arrivés dans des zones où la population est obligée la journée de rester dans sa localité, mais la nuit dans la brousse. Les besoins augmentent, mais malheureusement, les capacités de réponse ne suivent pas. Mais également, la zone étant tellement enclavée, la détérioration de la route réduit complètement les capacités de réponse. Nous faisons appel à toute la communauté humanitaire qui puisse avoir les moyens de venir aussi apporter cette assistance à toute cette personne.
Sur le terrain, un calme précaire est observé ce mercredi dans le secteur de Katoï et Osobanyungu, ainsi que dans la chefferie de Baoundé. Cependant, la situation demeure préoccupante. Des sources locales font état d'une psychose persistante au sein des populations après des attaques par drones militaires signalées en début de semaine dans plusieurs villages, notamment à Rubaya, Katoï Centre, Kasenyi et Bibatama.
Ce journal se poursuit dans la province du Kasaï central où l'exploitation de l'or sème la mort et la désolation à Luisa. Mardi, le chef du village Nguni Chitadi a été tué dans un conflit foncier autour d'un site aurifère l'opposant au village voisin de Nguni Kanana dans le secteur de Bambaï. Selon nos sources, les bilans fait également état d'une dizaine de blessés et de plusieurs maisons incendiées. La société civile locale appelle les autorités à intervenir rapidement afin de rétablir le calme et prévenir les nouvelles violences. Reportage signé André Katendengala Mouloumé.
Le chef bienvenu Chitadi a été tué alors que ses sujets affrontaient ceux du chef Kanana sur un site aurifère situé à la limite des deux villages, confie des sources locales. D'après ces mêmes sources, après la mort du chef, ses partisans ont incendié plusieurs maisons des habitants d'Nguni Kanana déjà réfugiés en brousse. Une dizaine de personnes ont été grièvement blessées. Elles ont été conduites vers des structures sanitaires, notamment au village Kitoko et à la mission catholique Mobinza. La majorité des habitants de deux villages ont fui, tandis que quelques proches du chef Chitadi sont restés pour l'inhumer. Jusqu'à présent, aucune intervention des autorités n'a été signalée. Paulin Kongolonsaka, coordonnateur territorial de la nouvelle société civile congolaise de Luisa, appelle les gouvernements provinciaux à dépêcher des forces de sécurité pour rétablir l'ordre. Ce drame survient deux mois après un autre conflit dans le secteur de Bushimai, toujours à Luisa, où trois personnes avaient trouvé la mort et des dizaines d'autres blessés dans une dispute entre créseurs artisanaux locaux et ceux venus du Lualaba autour d'un gisement d'or à Kalingamani. Kananga, André Katendengala Mouloumé, Radio Okapi.
Un mot sur l'éducation nationale avant d'aller plus loin. L'inspecteur général de l'éducation nationale, Hubert Kimbonza Sefou, confirme le lancement de l'examen national des fins d'études primaires ENAFEP pour ce jeudi 4 mai sur toute l'étendue du territoire national. Cette annonce a été faite ce mardi à Kinshasa devant les médias. Il a toutefois recommandé aux candidats ainsi qu'à tous les acteurs impliqués dans l'opération de cette épreuve certificative, notamment en Ituri, au Nord Kivu et au Sud Kivu, de respecter scrupuleusement les mesures préventives contre la maladie à virus Ebola. Un extrait de la déclaration d'Hubert Kimbonza, proposé par Blaise Ndongala Mayanda.
L'ENAFEP se déroulera du 4 au 5 juin 2026. Pour ce qui est de l'orientation, c'est-à-dire le TENASOSP, du jeudi 11 au vendredi 12 juin 2026. Quant à la session ordinaire de l'examen d'État, est prévue du lundi 22 au jeudi 25. Il faut que tous les candidats puissent porter de masque. Nous demandons à tous les chefs des centres de veiller pour qu'on dispose dans chaque centre ce qu'on appelle des points de lavage de mains. Et il ne faut pas que les enfants se lavent des mains avec de l'eau simple, mais il faut aussi que là où on se lave les mains, qu'on ait du savon, qu'on ait de gel hydroalcoolique. Le troisième, c'est la distanciation.
Actualité internationale.
Pour la première fois depuis plus d'un demi-siècle, un chef d'État tanzanien effectue une visite officielle en Russie. La présidente Samia Suluhu Hassan est attendue à Moscou du 3 au 5 juin 2026 pour un déplacement consacré au renforcement des relations économiques entre les deux pays. La dernière visite d'un dirigeant tanzanien remonte à 1969 lorsque Julius Nyerere s'était rendu en Union soviétique.
L'invité.
À Bapakombe, Bakondo, dans le territoire de Beni, la nuit du samedi à dimanche a été marquée par une nouvelle attaque des ADF. Plusieurs entités agricoles ont été prises pour cible et une vingtaine de civils pygmées et bantous ont été tués. Pour le député national Arsène Mwaka, invité hier de dialogue entre Congolais, ce drame se répète parce que les acteurs engagés dans les opérations militaires n'ont pas tiré les enseignements nécessaires des précédentes offensives. On l'écoute au micro de Guimaté Tsongo.
Professeur Arsène Mwaka, bonjour.
Bonjour.
Comment vous comprenez ces nouvelles tueries des civils dans cette région de Beni qui a été pendant un certain moment pacifiée et sécurisée par les opérations UPDF et FARDC?
Oui, je déplore ce qui s'est passé à Beni tout en partageant la peine de toute la population de Beni. Et donc je voudrais dire que ce qui se passe à Beni, c'est le fait de ne pas se prendre au sérieux. Certains individus qui ont les moyens de la défense de la République ne prennent pas au sérieux leur travail. Ils ont les armes, ils ont les tenues, ils ont les moyens nécessaires pour défendre la République et la population, mais ils n'ont pas pu tirer les leçons du passé pour savoir que quand la population alerte, il faut rapidement réagir. Et que même la nuit là, quand la population dénonce, il ne faut pas attendre le matin pour réagir. Et donc, pour moi, c'est de l'ordre de ne pas tirer les leçons du passé qui fait que nous soyons là où nous sommes. Et je le regrette amèrement.
Et donc, on peut dire que si la situation perdure, les nouvelles attaques sont possibles dans la ville de Beni.
Mais absolument, puisque maintenant, là, nous devrions apprendre qu'on a attrapé quelques bandits qui sont venus égorger les gens. Si réellement il y avait poursuite, on saurait que la population devait évacuer telle voie et que les bandits seraient en train de s'orienter ailleurs. Et donc, il serait déplorable si on apprend encore qu'ils sont allés massacrer ailleurs, parce que c'est ce qui se fait le plus souvent. La terreur passe par toutes les localités et au vie et au sud de ceux qui ont les moyens de la défense de la République et des citoyens. Et donc, nous les alertons à travers cette radio pour leur dire, nous voulons la paix à Beni. On avait déjà réussi à obtenir ce qui était très compliqué, c'était le fait de l'armée et de ses alliés, l'UPDF. Nous souhaiterions que la dynamique qui prévalait puisse revenir et que ces morts qui sont de trop soit vraiment les derniers morts et que, qu'on ne puisse plus déplorer d'autres morts.
On a vu comment est-ce qu'on a donné beaucoup d'importance au dernier forum des Béni sur les EDF et on se disait que après ces forums-là, on ne va plus parler de l'activisme des EDF à Béni. Maintenant, comment vous expliquez que, en dépit de toutes ces réflexions, n'est-ce pas, qui sont émises par vous, professeurs, par la population, par les militaires, la situation ne change toujours pas?
Mais on doit cesser justement de travailler comme des ONG. Un gouvernement ne travaille pas comme les ONG.
C'est-à-dire?
On fait un petit forum où on fait des petites interventions de 3-5 minutes et on parle d'ADEF et l'organisateur lui-même, il est privé des opérations militaires, c'est-à-dire le gouverneur. Lui-même est privé des opérations militaires alors que c'est un meilleur commando que nous avons dans ce pays après Mamadou. Et donc, je pense que ça a été un forum inutile qui n'a pas servi à quelque chose parce que celui qui l'organisait, lui-même n'avait pas les moyens de pouvoir appliquer ce qui était dit. Et nous plaidons pour lui. Nous demandons qu'on l'aide à devenir un gouverneur sérieux, respectable, à lui donner les moyens d'un gouverneur militaire dans un régime exceptionnel de l'état de siège, qu'on lui donne les moyens humains, qu'on lui donne les moyens militaires, qu'on lui donne les moyens financiers pour lui permettre d'agir. Nous souhaiterions qu'on lui donne les opérations de l'ADEF.
Et si il vous est demandé aujourd'hui de faire des recommandations à l'endroit du gouvernement, qu'est-ce que vous diriez?
Oui, je dirais, puisque le gouvernement, pendant plusieurs années, presque 5 ans, le gouvernement a voulu que nous soyons sous état de siège. Je demanderai au gouvernement de reconceptualiser l'état de siège, qu'on lui mette un contenu pour qu'on sache comment sera évalué le gouverneur de l'état de siège, qu'il ne soit pas Louis XIV pour sortir de sa tête tout ce qu'il faut défendre, même quand on veut commenter sa gestion, qu'il dise qu'il va arrêter, il va tuer, il va faire ceci, que ça ne se passe pas comme ça. La deuxième chose, c'est de dire qu'il faut rendre contrôlable l'état de siège. Il doit y avoir des mécanismes et des structures, des contrôles des gouverneurs de l'état de siège. Nous sommes dans une démocratie, on ne peut pas laisser les individus faire ce qu'ils veulent. La troisième, il faut redynamiser les opérations militaires. À côté de l'état de siège et des actions que peut mener ce gouverneur militaire, il faut qu'on prenne au sérieux l'ADEF. Et je l'ai dit, et je pense que j'ai été mal interprété pour dire, pendant très longtemps, on a considéré cette question comme une question marginale de Béni, mais aujourd'hui, on est dans 3 provinces. On est à Ituri, on est dans la Tchopo, et finalement, au Nord Kivu, et même le Lubero voisin a été atteint par ce phénomène, alors que c'était juste un phénomène des territoires et de la ville de Béni. Et en fait, il faut mettre à profit la population. Sur le plan sécuritaire, il faut former la population pour qu'elle donne des renseignements fiables. Il faut que la population soit capable d'alerter. En fait, il faut que la population soit capable de faire les premières interventions. Puisque ces ADF font quoi? Ils égorgent les gens silencieusement. Tous ceux qui ont été tués ont été égorgés pour qu'il n'y ait pas bruit d'armes, pour ne pas alerter l'armée. Ils égorgent silencieusement. Ça signifie, si la population peut même tirer en l'air, ça peut être le signal à l'armée pour que l'armée n'ait pas de prétexte pour ne pas intervenir.
Professeur Arsène Mouaka, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, Guy Maté.
Et c'est aussi par ici que nous mettons un point final à cette grande édition du journal parlé de la mi-journée sur la radio de la paix. Journal coordonné par Élisée Chikota Chivueta, supervisé par Alain Irungumushinge et mis en onde de main des maîtres par Jean-Claude Siala Mwanama Kengonsoalu. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiokapi.net.